Bonjour à tous, Emmanuel Revitaille avec vous pour les 60 prochaines minutes. J'espère que vous allez bien. Comment ça va? Cette semaine, on parle du pardon sous toutes ses coutures. Une des choses les plus difficiles à faire, c'est pardonner. Pardonner, puis on l'entend tellement souvent. Pardonne. Et encore plus, pardonne-toi à toi-même. C'est cliché, mais c'est tellement vrai. Puis c'est fâchant de l'entendre. Pourquoi c'est fâchant? Parce que c'est comme l'évidence. C'est comme de dire « le ciel est bleu ». Mais je pense que c'est fâchant parce que c'est difficile à faire. On ne sait pas comment s'y prendre. On semble souvent pas être capable de le faire au complet. On se sent quelque part un peu impuissant devant cette commande-là qu'on considère importante, qu'on sait être vraie. On se sent maladroit, on se sent mal outillé pour le faire. Et vous savez, pardonner, c'est accorder à quelqu'un son pardon pour son acte. Ne pas lui en tenir rigueur, ne pas sanctionner une faute. Le pardon en soi, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute ou offrir la rémission d'une offense. Donc, la notion de ne pas tenir rigueur, ça sous-tend la notion de ressentiment. T'sais, puis on a toujours dit, le ressentiment, c'est de la colère congelée. Ma mère me disait ça constamment. Et le fait de ne pas sanctionner une faute, ça sous-tend la notion de vengeance, agir son ressentiment. Mais ça veut dire quoi, pardonner? Pardonner concrètement. Est-ce que le pardon passe nécessairement par l'action? Est-ce que c'est possible de pardonner trop facilement, trop rapidement? Offrir son pardon, donc pardonner, c'est une chose, mais également demander pardon. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Demander pardon ou pardonner à quelqu'un? Pourquoi? On en parle aujourd'hui avec quelqu'un qui s'est penché sur le pardon avec une vision bien singulière. Notre invité aujourd'hui, Éric-Emmanuel Schmitt.
Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras. Je donnerais tout pour être dans tes bras.
On dit souvent que la patience est une vertu. Je vous dirais que sur l'échelle de la vertu, le pardon est quand même assez haut. C'est un geste, c'est quelque chose qui est très noble, dirons-nous. Et là, je ne parle pas des petits pardons de la vie. Parce que remarquez à quel point il peut être difficile de pardonner ou de demander pardon et combien de fois chaque jour on peut dire « excuse-moi » ou « oh pardon ». Mais vous le voyez, là, vous avez tout de suite une image, vous avez tout de suite, vous, hier, aujourd'hui. On demande pardon pour des choses banales, triviales et de manière assez automatique. Est-ce qu'on le pense vraiment quand on dit cette formule-là quotidiennement? Les petits pardons, comme je les appelle, là, ces automatismes-là, combien de fois on dit « excuse-moi » quand on veut passer à quelque part dans à l'épicerie, par exemple, puis que quelqu'un est là. Ça, je l'ai fait, moi, quand je vous parle. C'est déjà arrivé que je bafouille sur un mot. Je me suis excusée, tu sais. Mais j'étais-tu vraiment désolée? Je le pensais-tu vraiment? Pour vrai, on s'excuse, pourquoi? C'est paradoxal parce que le pardon, c'est une des choses les plus difficiles, mais on semble le mettre partout, à plein d'endroits où c'est pas nécessairement nécessaire, pour avoir beaucoup de vocabulaire ici, et qui est pas nécessairement toujours senti. Qu'on se le dise, là, c'est vraiment devenu plus souvent qu'autrement une formule de politesse. Et je me dis, pourquoi on fait ça quand... Quand vient le temps de procéder à un pardon qui est profond avec des gens qu'on aime pour des choses plus significatives, là, on a le pardon un peu coincé dans la gorge. T'sais, c'est moins facile, c'est moins automatique parce que justement, je pense qu'on n'est pas dans une formule de politesse non sentie. Si le pardon est si difficile à faire, pourquoi on s'excuse puis on demande pardon partout, un peu n'importe comment qu'on se le dise, là? Pensons-y. Parce que moi, je suis en train de me demander, est-ce que ça serait pas là, au-delà de la politesse, une façon un petit peu détournée de jeter à petite poignée nos réelles et plus profondes demandes de pardon, tu sais. À défaut de pouvoir le faire ou d'être capable de le faire quand c'est réel. Parce que vous remarquerez que des fois, c'est la même chose avec la colère. On a cette tendance-là à pas être capable de mettre quelque chose à la bonne place. Et puis ça va sortir un peu n'importe comment ailleurs. Vous remarquerez. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que vous voyez déjà dire, « Cette fois-là, je n'étais pas fâchée après ça, c'est mon matin qui m'a suivi toute la journée puis j'étais super irritable. » Ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait en avant de vous. Là, c'était simplement de remettre quelque chose qui est à l'intérieur, qui n'a pas été fait, à des endroits qui ont rien à voir. Ramenons donc le pardon, le fait d'être désolé au bon endroit. Ramenons le pardon comme quelque chose à demander, quelque chose à offrir à quelqu'un d'autre ou à soi-même dans un contexte profond de compassion, de conscience de ses actes et celle des autres. Parce que pour pardonner à quelqu'un, il faut aller au-delà du geste, il faut aller dans l'intention, il faut vraiment avoir une capacité à se mettre à la place de l'autre. Et je vous ai demandé, qu'est-ce qui est le plus difficile? Pardonner ou demander pardon? Moi, pour ma part, j'ai réfléchi puis je me dis, moi, j'ai l'impression que les deux sont difficiles pour des raisons qui sont différentes. Chacun a son plus grand obstacle, son plus grand ennemi, je vais le dire comme ça, là, bien à lui. Le plus grand obstacle à pardonner à quelqu'un, pour moi, c'est l'orgueil. Alors que le plus grand obstacle à demander pardon, pour moi, c'est la honte. Donc, si on revient à se questionner sur ce qui est le plus difficile, pardonner ou demander pardon, il y a quelque chose de très, très positif associé à offrir son pardon. Tu sais, c'est généreux. On est une bonne personne et je reviendrai jamais assez souvent sur notre désir profond d'être une bonne personne. Si on se fie, tu sais, sur la base que tout humain veut être bon en soi, c'est évident que ça correspond à la définition d'une bonne personne que de savoir pardonner à quelqu'un. Et au contraire, quand on demande pardon, ça sous-tend qu'on est en faute. Et c'est une grande menace à notre intégrité, à notre valeur. La honte, c'est la menace que l'on peut être une mauvaise personne. Donc, je suis en train de me demander, est-ce que demander pardon serait pas plus difficile qu'offrir son pardon? L'orgueil aussi joue un rôle de préservation, mais cette fois, j'ai l'impression que c'est plus une tentative de respect de son intégrité, de sa personne. Parfois, on s'attache tellement au ressentiment, on a tellement peur de pardonner parce que en pardonnant, c'est comme si on acceptait ce qui avait été fait et donc on se manquait de respect. Je ne sais pas si ça vous parle, mais pour moi, ça me parle beaucoup. Ce n'est pas nécessaire d'accepter ou de trouver acceptable quelque chose pour pardonner. Il faut vraiment faire la différence entre ces deux concepts-là et je crois qu'ils sont souvent très confondus. Combien de fois avez-vous ressenti une fraction de seconde que vous en vouliez plus à quelqu'un, que vous vous demandiez même comment il allait puis vous souhaitiez qu'il aille bien, ou que vous pensiez à un événement, parce qu'on doit pardonner certains événements parfois, puis vous souriez, puis là, ça revient au galop. Là. Ah, je suis supposée m'en foutre, je suis pas supposée me poser ces questions-là, puis là, c'est comme l'ego revient au galop. Là. On se protège au bout, t'sais. C'est que ça. Si vous êtes capable de vous demander si la personne va bien, si vous êtes capable de sourire à quelque chose, c'est que vous êtes prêt à pardonner. Attachez-vous pas trop à l'orgueil, attachez-vous pas trop. Faut pas mélanger les choses, parce que c'est une belle illusion. Il est temps d'aller voir avec notre invité aujourd'hui, qui s'est penché grandement sur le pardon. C'est quoi pour lui le pardon? Et on continue à en parler avec Éric-Emmanuel Schmitt.
Still do. So if you're feeling low.
Donc, il est écrivain, dramaturge, philosophe et nouvellement juré au prix Goncourt, prix littéraire français. Il est le prochain président d'honneur du Salon international du livre de Québec. Son plus récent ouvrage aborde le pardon sous forme de nouvelles littéraires intitulé « La vengeance du pardon ». On en parle avec M. Éric-Emmanuel Schmitt. Bonjour, M. Schmitt.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de manière généreuse. Vous êtes en France actuellement?
Je suis en France, je suis dans mon théâtre à Paris, le théâtre Rive Gauche, et dans une heure, deux heures, nous allons avoir la première d'une pièce qui commence.
C'est incroyable et vous prenez le temps d'être avec nous, c'est vraiment, vraiment merveilleux et généreux. Et je veux parler avec vous du pardon, parce que c'est notre thème cette semaine. Je sais que vous adorez jouer avec l'ombre et la lumière, vous le dites vous-même, vous jouez toujours un peu, d'ailleurs, la vengeance du pardon, quelle belle dualité qu'on retrouve ici. Mais pourquoi vous avez choisi d'aborder le pardon et d'appliquer cette ombre et cette lumière à ce thème-là particulièrement?
Bien, je crois que dans nos vies, nous rencontrons tout le temps la problématique de la vengeance et du pardon. Pourquoi ? Ben parce que quand on nous fait mal, quand on nous trompe, quand on nous humilie, quand on nous blesse, nous avons le choix entre deux réactions, pardonner ou bien nous venger. Voilà, nos vies sont habitées par cette question. Et alors moi, je vais vous dire tout de suite les choses, je suis quand même vraiment du côté du pardon. Parce que le pardon... Qu'est-ce que c'est ? Pardonner, c'est dire à l'autre « je ne te réduis pas au mal que tu m'as fait ». C'est extrêmement important dans la relation avec l'autre. C'est lui dire « oui, je ne te pétrifie pas dans un seul de tes actes, je ne te limite pas à un seul de tes gestes, je sais que tu es plus, que tu es capable du pire et du meilleur. » Et finalement, c'est dire à l'autre, je te restitue ton humanité entière et je te rouvre le chemin de l'avenir. Donc pour moi, le pardon, c'est très très important dans la relation humaine parce que on rend possible la relation avec l'autre. On dit quelque chose à l'autre, mais on dit aussi quelque chose sur soi. Quand on pardonne, c'est-à-dire qu'on dit quelque chose de soi, on dit qu'on est du côté du positif plutôt que du négatif, on est du côté de la paix plutôt que du côté de la guerre, et puis on est en train de dire à l'autre, tu as fait quelque chose de mal, mais tu n'es pas mauvais par toi-même, tu es capable de tout, du pire et du meilleur, et moi aussi. Moi aussi, je suis un être faillible, moi aussi, je suis un être qui essaye de faire le bien et le mal, donc il y a aussi une façon de rétablir l'égalité en disant nous sommes tous faillibles. Alors soyons conscients, soyons humbles, soyons lucides par rapport au mal que nous faisons, mais continuons à avancer.
Donc ce que vous dites, c'est parce que ce que vous nommez, en fait, c'est relativiser, amener la personne dans un tout qu'il est et non pas l'arrêter à un simple comportement qu'il a fait une fois, peut-être deux fois, peut-être trois fois, qui sait, de restituer le respect et la dignité de la personne. Et vous dites... C'est de dire à cette personne-là ce qu'on en pense. Quand vous dites de dire à la personne, parce que ça, c'est un point qui est important, est-ce que vous sentez que ça doit être absolument dit à une personne qu'on lui pardonne? Est-ce que le pardon est vraiment dans l'action?
Oui, moi, je crois qu'il faut que ça soit dit et puis il faut que ça soit compris aussi. Parce que vous savez, pardonner à quelqu'un qui n'a même pas pris conscience qu'il a fait une faute, ça ne sert à rien.
Non, mais on dit souvent qu'il faut accepter les excuses qu'on ne recevra jamais, d'ailleurs.
Oui, mais c'est-à-dire ça vous soulage vous, mais ça ne soulage pas la relation avec l'autre, ça ne fait pas progresser l'autre. Et là, vous avez tout d'un coup évoqué le fait qu'on pardonne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Alors là, je deviendrais, moi, plus... Je freinerais un peu. C'est-à-dire que pardonner de façon systématique et sans qu'il n'y ait plus prise conscience du mal et donc du pardon du mal... ça peut être une mauvaise pente, parce que par exemple, parfois, il y a des êtres à qui il faut donner des limites. Et leur pardonner sans cesse, comme si on ne faisait plus attention, c'est leur ôter les limites. Et d'ailleurs, c'est les amener à aller toujours plus loin, et au fond, à être encore plus angoissés ou encore plus mauvais. Donc je crois qu'il faut pardonner, mais aussi pardonner à bon escient. dans une des histoires de mon dernier livre, La vengeance du pardon, il y a une histoire de deux sœurs jumelles dont l'une est vraiment agressive, envieuse, jalouse, mauvaise, et puis l'autre pardonne tout le temps. Ben, je crois que celle qui pardonne tout le temps, elle a tort. Parce qu'au fond, elle ne pose pas de limite à sa sœur et elle ne permet pas à sa sœur de se construire et d'avoir des repères. Donc, à la fois, je crois au pardon, mais le pardon doit être considéré au cas par cas et être pratiqué avec intelligence. Parfois, le pardon est nécessaire pour avancer, mais quand tout d'un coup, l'autre n'a pas conscience du pardon et ne reçoit plus de limite, je pense qu'on part dans une mauvaise direction.
Je trouve ça extrêmement intéressant ce que vous venez de dire et je vais en parler un petit peu plus tard de cet aspect-là d'accepter les choses qui sont à la fois intolérables parce que vous parlez du respect de l'autre, mais je pense qu'on doit se respecter également à l'intérieur de tout ça. Donc, est-ce que vous diriez qu'il est possible de pardonner trop, trop vite, trop souvent? Vous dites que oui, finalement.
Oui, oui. Il y a des pardons dangereux quand il n'y a pas chez le pardonné prise de conscience de la faute. Et prise de conscience de l'écart, et prise, donc il n'y a pas chez le pardonné prise de conscience de ce que fait le pardonneur. À ce moment-là, c'est assez mauvais. Et puis, vous savez, c'est une relation, la relation de celui qui pardonne à celui qui est pardonné. Et elle est difficile des deux côtés. C'est-à-dire que, d'abord, il est difficile d'être pardonné. Parce que quand on est pardonné... on est doublement misérable parce que, premièrement, on a conscience de la faute qu'on a fait, on a le nez dessus, hein. Et puis, deuxièmement, on est en face de quelqu'un qui est plus haut, plus élevé moralement que soi, puisqu'on est en face de quelqu'un qui pardonne. Donc, on peut s'en vivre ça comme un double sentiment de misère, mais chez certains, une double humiliation. Et d'ailleurs, certains ne supportent pas d'être pardonnés et deviennent encore plus agressifs, justement, parce que ça les humilie d'être pardonnés, vous voyez. Donc, c'est pas facile d'être pardonné. Mais de notre côté, il faut savoir pourquoi on pardonne quand on pardonne. Parce que si on pardonne pour soi et pas pour l'autre, il y a risque. Vous voyez, si on pardonne pour soi simplement pour se dire quelque chose d'abord de légitime, on se dit, bon, j'en ai assez d'être habité par la douleur ou d'être habité par un sentiment de violence et de vengeance. Je mérite mieux que ces sentiments-là, je n'ai plus envie de vivre avec ça. Donc souvent, c'est pour avoir la paix en soi qu'on va donner le pardon à l'autre.
Tout à fait.
Mais bien sûr, et c'est important parce que je pense que on mérite mieux que souvent l'état dans lequel nous met quelqu'un qui nous agresse ou qui nous trompe. Donc on veut essayer de dépasser cette situation et finalement de ne pas être complètement la victime de celui qui nous a humiliés ou offensés ou trompés. Mais en même temps, il faut se méfier d'une dimension trop égoïste, entre guillemets, du pardon. On pardonne pour soi, mais on pardonne à l'autre. Il faut toujours avoir le curseur sur les deux. Soi-même, on fait un mouvement qui va vers une pacification intérieure, mais il faut en même temps, c'est bien à l'autre qu'on pardonne pour rétablir une relation et la rendre de nouveau possible. Donc, vous voyez, il faut veiller à l'équilibre. Si on pardonne que pour soi, finalement, ça ne sert à rien. Dans la relation avec l'autre. Et si on pardonne à l'autre sans se dire qu'on fait le ménage en soi, on n'avance pas non plus. Donc c'est vraiment très, très délicat, le pardon. Il y a plusieurs poids qui pèsent et qu'il faut équilibrer.
Donc, avec ce que vous dites, que feriez-vous avec une situation à pardonner dans le cas où la personne est physiquement plus disponible, quelqu'un qui est décédé, quelqu'un avec qui on n'a plus contact à ce moment-là? Parce que le pardon, pour moi, a sa place quand même.
Oui, je pense que le pardon s'adresse à l'autre et au souvenir de l'autre qui est en nous, puisque l'autre vit toujours en nous sous la forme du souvenir et sous la forme du manque. Et donc l'autre est quand même présent et puis c'est un pardon qui aussi entre soi et soi, c'est-à-dire que on se donne la paix en faisant la paix avec l'autre, même si l'autre n'est pas là. Je pense que c'est important aussi et c'est faisable.
Donc c'est faisable. Donc ce que vous nommez à quelque part, c'est le faire pour soi, le faire à l'autre, mais on nomme aussi la notion que l'autre existe en nous. Donc, à quelque part, la place, la représentation, le rôle, la relation qui a été établie, tu sais.
Si c'est quelqu'un qui a disparu, si c'est un mort, c'est lui dire, tu ne vas pas occuper en moi uniquement la place du bourreau, de celui qui me fait souffrir, de celui qui m'aliène, de celui qui me détruit. Tu vas occuper une autre place en moi, si je te pardonne, la place de quelqu'un qui m'a fait certes ça, mais qui était aussi autre chose. Et tout d'un coup, on va peut-être se redonner l'accès à d'autres souvenirs, à d'autres actions qu'a fait cette personne. Vous voyez, l'autre est présent de toute façon.
Très belle réflexion. Très belle réflexion. Et on continue d'en parler avec vous, M. Schmitt, dans quelques minutes. Vous écoutez toujours Emmanuel avec un M et deux L. Emmanuel Robitaille, toujours avec vous, avec notre invité également, Éric-Emmanuel Schmitt. Et on continue de parler du pardon.
Pardon pour cette école où je t'ai rencontré et pour tes cheveux blonds que j'ai tirés. Pardon pour cette table où nos noms sont gravés. Pardon pour ces pages arrachées à mes cahiers, pour cette encre violette que j'employais. Pardon d'avoir osé t'écrire que je t'aimais. Et pardon d'y penser, pardon d'en parler, pardon d'en. Pardon pour cette ville où j'ai suivi tes pas, pour ton regard qui s'est posé sur moi. Pardon pour cette rue qui brillait ce soir-là. Pardon pour ce vieux banc où j'ai parlé d'amour, pour cette chambre où je t'ai fait l'amour. Pardon pour cet amour que tu as piétiné. Pardon d'en souffrir, pardon d'en pleurer, pardon d'en mourir, pardon d'en crever. Pardon, mon enfant ton petit viendra te hanter et passera sa mort à tes côtés. Pardon si te poursuis au soleil comme à l'ombre. Pardon pour cette pluie qui collera tes cheveux, ce vent du nord qui fera pleurer tes yeux. Pardon pour cette pierre, blessera ton pied. Pardon pour cette robe qui collera à ton corps, pour ce miroir qui regardera ton corps, pour ce drap sur lequel tu dormiras. Pardon pour ce ventre de mer qui m'a porté. Et pour ce jour maudit où je suis né, pardon pour cet enfant qui est devenu moi. Pardon pour les bras dans lesquels tu mourras, pour mon amour qui ne peut pas finir. Pardon pour mon amour qui ne peut pas mourir.
Oui, toujours avec Éric-Emmanuel Schmitt. Concernant le pardon, tout à l'heure, on parlait de la place de l'autre à l'intérieur de soi, mais vous avez nommé quelque chose de fondamental. Pour moi, un petit peu plus tôt à l'émission, je parlais justement des obstacles à pardonner et à demander pardon. Pardonner, le plus grand obstacle pour moi, c'est l'orgueil, et de demander pardon, c'est la honte. Et vous l'avez nommé, cette idée-là, où on était une pas bonne personne. Donc, selon vous, qu'est-ce qui est plus facile? Demander pardon ou pardonner à quelqu'un? Sachant ça.
Je crois que celui qui demande pardon, il en a énormément besoin. Donc c'est une demande qui peut être très pressante et très urgente. Et il peut en avoir beaucoup plus besoin que celui qui pardonne. celui qui pardonne est beaucoup plus dans la générosité. que celui qui demande à être pardonné, où il y a quand même encore quelque chose.
C'est très noble, pardonner, on s'entend, là.
Oui, c'est très noble, pardonner. Il faut pas s'en faire un grand mérite. Hein. Il faut voir que... Mais c'est noble. Mais vous savez, c'est Mandela, Nelson Mandela, qui disait une chose très 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 belle sur le pardon, parce qu'on sait très très bien que son pays, l'Afrique du Sud, a été traversé par la problématique du pardon. Il y a même eu des procès du pardon, puisque tout d'un coup, des communautés qui s'étaient entretuées, il fallait qu'elles puissent quand même vivre ensemble. Hein. Donc la problématique du pardon s'est posée de communauté à communauté, vraiment d'une façon nationale, au niveau de la société. Et dans ses mémoires, Mandela dit une très belle chose, il dit que le pardon n'efface pas le passé, mais ouvre le chemin de l'avenir. Et c'est ça, au fond, que souhaite à la fois le pardonneur et le pardonné. C'est non pas effacer le passé, parce qu'on sait que, de toute façon, quelque chose a été produit, quelque chose qui fait mal. Donc, être pardonné, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé.
Donc, pardonner et accepter seraient deux choses différentes, on se comprend.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Mais c'est rendre le présent et l'avenir possible. Et ça me paraît une démarche nécessaire. Mais vous savez, cela dit, j'ai beau être moi un admirateur du pardon, un sectateur du pardon, quelqu'un qui a la volonté de pardon, je pense quand même qu'il y a, il y a des limites. Je pense que la volonté de pardon peut aussi parfois buter contre l'impardonnable. Parce que chacun, à mon avis, en son âme et conscience et dans son cœur comme dans son esprit, décide de ce qui est pardonnable et pas pardonnable.
Mais justement, vous, en tant qu'homme, parce que ce que je vous ai lu et vous avez nommé que vous pardonnez ce qu'on vous fait à vous, vous vous dites que vous êtes capable du pardon quand il y a des choses qui ont été faites à vous. Par contre, quand on s'attaque, entre parenthèses, à vos proches, là, la vengeance vous guette, c'est ça?
Oh oui.
Ça serait votre limite du pardonnable, de l'impardonnable, finalement.
C'est-à-dire que je quand j'aime quelqu'un, j'ai toujours, je m'en sens responsable, ou responsable de son bonheur. Et en fait, j'ai l'amour protecteur. J'ai l'amour extrêmement protecteur. Et ça en fait partie. Et donc, si on touche à quelqu'un que j'aime, mais je ne sais pas de quoi je suis capable. C'est-à-dire que c'est mon amour inquiet, protecteur, hyper protecteur qui va d'abord réagir et je sais que je pourrais être extrêmement agressif pour répondre à l'agression d'un de mes proches. Alors que moi, si on m'agresse, j'arrive très bien à me débrouiller, je remets la situation en place, etc., etc. D'ailleurs, je cauchemarde régulièrement depuis que je vis sur cette terre, en pensant au moment où on s'en prendrait à quelqu'un que j'aime. Je sais que je pense que je serais même capable de tuer sur le moment. Tellement, je ne veux pas qu'on s'en touche au champ que j'aime. Donc, c'est-à-dire que là, on atteint des structures du cerveau, je dirais, c'est mon cerveau archaïque, c'est mon cerveau reptilien,
oui.
C'est mon cerveau antique qui est touché, si on s'en prend au mien. Moi, ça va. Moi, je sais que je peux me remettre de beaucoup de choses, je sais que je pourrais m'arranger avec le réel, je pourrais m'arranger avec moi-même. Alors, c'est peut-être odieux ce que je suis en train de vous dire, parce que je suis en train de supposer que les gens que j'aime sont moins forts que moi. Mais en fait, je ne me pose pas la question de savoir s'ils sont forts ou s'ils sont faibles, je les défends.
Monsieur Schmitt, La vengeance du pardon qui est disponible aux éditions Albin Michel. Grande recommandation de ma part parce que je l'ai lu avec grande attention. Ça l'a reculé mon heure de coucher de plusieurs minutes dans les derniers jours. Je le conseille à tout le monde. En plus d'une écriture magnifique, d'un vocabulaire qui est riche, qui fait naître mille et une images à la seconde dans nos esprits, vous touchez à des pardons qui sont, je dirais, audacieux. Merci de nous avoir offert cet ouvrage-là et merci surtout d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Grandement apprécié.
Merci d'ouvrir des vrais sujets et de permettre d'en parler. Merci.
Merci à vous.
Pardon. Je viens vous demander pardon pour tous les hommes n'ont jamais appris le verbe aimer, qui n'ont jamais compris la force de l'amour, la beauté.
Mais c'est quoi pardonner? Comment ça se manifeste, pardonner? J'ai pas toutes les réponses, j'ai pas toutes les solutions. Je peux quand même dire que pardonner, c'est un verbe, oui, mais c'est rare qu'on peut le voir en action. On le sent à l'intérieur de nous. Pardonner, c'est littéralement à l'intérieur de soi. On peut pas l'inventer. Pourquoi vous pensez qu'on a souvent l'impression, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, pensez-y, on a l'impression d'avoir pardonné à quelqu'un et plusieurs années plus tard, on se rend compte que ce n'était pas vrai et qu'on se mentait. Parce qu'au moment où on s'en rend compte, on a finalement pardonné et on voit la différence en nous. Un geste gentil après une chicane, ce n'est pas pour moi la manifestation réelle d'un pardon. T'sais, les raisons pour lesquelles on fait ça peuvent être multiples. La peur de dire non, vouloir se faire aimer, ne pas tolérer les conflits, vouloir être meilleur que l'autre, faire la bonne chose. Non, mais on peut en nommer plusieurs. Pour moi, c'est pas toujours le reflet d'un pardon qui est réel. Et à l'opposé, le fait de ne pas revenir en contact avec quelqu'un avec qui on a eu un conflit, c'est pas non plus pour moi la preuve qu'on n'a pas pardonné à cette personne-là. comme je disais plus tôt en début d'émission, pardonner un acte, ça ne veut pas dire qu'on le considère automatiquement comme acceptable. Faisons bien la distinction. Je demande souvent, c'est quoi la différence entre le fou et le sage? Le savez-vous? C'est quoi la différence entre le fou et le sage? J'avais lu quelque part que le sage, lui, sait à qui parler. J'avais trouvé ça pas fou. Quand qu'on veut régler des conflits qui traînent avec des gens et de vouloir le faire avec les gens qui sont impliqués, c'est faire face. C'est une faculté à développer, ça c'est sans aucun doute. Mais parfois, pour moi, et pensez-y, c'est pas ce qui est le plus approprié dans la situation actuelle. Je crois pas qu'on doive nécessairement être avec l'autre personne pour pardonner. Je reviens à l'idée que le pardon est en soi. J'avais un ami qui avait vécu des traumas importants avec une personne qui vivait dans une région éloignée, donc plus de contact physique, on se comprend. Ça avait été une situation qui était intense. Lui, il me parlait de ça, il avait vraiment envie de rétablir ça. Il avait envie de le rétablir pour lui, surtout. Cette personne-là, malheureusement, elle était très blessée dans la vie. La personne qui était impliquée, donc qui n'était pas lui, cette personne était très blessée dans la vie. Et donc, malheureusement, elle blessait les gens à son tour, inconsciemment ou avec un manque d'outils ou d'alternatives, je dirais ça comme ça. Et la communication avec elle, c'était pas ce qui, moi, sur le coup, quand il m'en parlait, m'apparaissait le plus sage. Et l'analogie du trou m'était venue à ce moment-là. Et je lui ai dit, disons que quelqu'un est dans un trou de 20 pieds, creusé dans terre. Un grand trou que cette personne-là a creusé elle-même, dans lequel elle s'est lancée sans échelle, sans corde pour se remonter. C'est son refuge à elle, c'est sa demeure, elle l'a choisi. Les rebords du trou sont trop vaseux pour pouvoir s'agripper. La personne se complaît dans ce trou-là, veut rester là, et toi, tu souhaites enfin pardonner cette personne-là. C'est une analogie, on se comprend. Est-ce que tu sens que tu dois nécessairement aller te mettre dans le trou avec elle pour discuter et arriver à cette réconciliation-là? Ou tu peux simplement te mettre une petite couverte sur le bord du trou, puis en parler à distance, et toi continuer ta route, considérant que le trou, c'est pas ta maison à toi, c'est pas ton choix à toi. Et la réponse, quand j'ai parlé de ça avec mon ami, la réponse lui semblait tellement évidente, et l'application concrète de ça, dans la situation, elle est devenue tout autant. Il m'a rappelé là, la semaine d'après, puis il m'a dit, j'ai étendu ma couverte, puis j'ai dit ce que j'avais à dire sans elle. Le pardon était en lui. Utiliser une lettre qu'on n'est pas obligé d'envoyer, c'est une bonne façon de communiquer les choses qui pèsent encore dans un processus de réconciliation quand on est seul à vouloir la réconciliation, parce que c'est pas vrai que c'est toujours les deux qui veulent se réconcilier, c'est pas vrai que c'est toujours les deux qui voient une situation à réconcilier. Il y a des gens qui voient pas les torts, puis c'est correct. Il n'y en a peut-être pas, hein? On vit avec nous-mêmes. Notre perception, c'est ce qu'on a dans la vie pour avancer. Des fois, l'approche avec cette personne-là n'est pas souhaitable ou pas possible physiquement. Quand on parle d'une personne qui est décédée, par exemple, est-ce qu'on ne voit pas ici l'importance du pardon à l'intérieur de soi? Pensez-y. Pardonner des gens, des événements, des projets, par-dessus tout, se pardonner à soi-même. Mais pardonner, là, c'est la base de tout, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Parce que c'est tellement plus facile de pointer quelqu'un du doigt puis blâmer dans nos moments de colère et de peine. Je veux dire, c'est tellement intangible, se pardonner. Se pardonner, c'est s'offrir la réconciliation avec des décisions antérieures. Accepter de faire la paix avec des choses qu'on a accomplies, dont on n'est pas fier. des choses qu'on a omis de faire, dont on n'est pas fier, c'est se pardonner d'avoir accepté le comportement des gens qu'on considère irrespectueux. Je répète. Se pardonner, c'est aussi se pardonner d'avoir accepté le comportement des gens qu'on considère irrespectueux. On dit souvent qu'il faut savoir accepter les excuses qu'on recevra jamais. Oui. Rappelez-vous toujours qui vous étiez au moment où vous avez agi ou avez pas agi. Qui vous étiez à ce moment-là? Ayez de l'indulgence pour cette personne-là. Les décisions que vous regrettez, les actions que vous avez posées ou omis. Quelles options vous aviez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous connaissiez à ce moment-là? Vos peurs, vos blessures, vos désirs conscients ou non conscients? Voyons qui on était avec les moyens qu'on avait à ce moment-là dans notre vie. Voyons qu'on a fait de notre mieux. C'est trop facile avec du recul, plusieurs jours d'expérience de vie supplémentaire de se taper dessus. C'est facile. Et le bourreau à l'intérieur, il sert à pas grand-chose. Je vous le garantis que quand on se rend compte qu'il est là, l'évolution est parfois rocailleuse et difficile. On pense à toutes les fois où on n'a pas été la meilleure version de nous-mêmes. Il reste qu'on avait une raison pour la faire, évidente ou non. Parce que des fois, tu dis « oui, mais à ce moment-là, je savais que je faisais pas la bonne chose ». Ben, bravo, tu t'en rends compte. Bravo, tu t'en rends compte. Est-ce que c'est pas assez grand? Est-ce que ça veut pas dire qu'on est déjà ailleurs, qu'on est déjà quelqu'un d'autre? Bravo. Et j'introduis, je sais pas, ceux d'entre vous qui connaissent le Ho'oponopono, qui est un mantra qui vient des traditions hawaïennes anciennes, qui signifie « rétablir l'équilibre ». C'est quatre phrases très, 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 très simples que je vous offre, en plus du reste, pour travailler en méditation, pour permettre le pardon mutuel et à soi-même. Quatre phrases extrêmement simples, mais pas moins lourdes de signification, parce que je pense que c'est quatre phrases qui sont les plus difficiles à dire. Je suis désolée. Pardonne-moi. Je te remercie. Et je t'aime. Pas facile, Ho'oponopono, quand même. À utiliser aussi souvent que nécessaire envers d'autres et envers soi-même aussi.
Thank you.
seems to me that sorry seems to be the hardest word. What do I do to make you love me? Oh, what am I gotta do to be heard?
C'est presque tout pour l'émission d'aujourd'hui, en espérant qu'on se réconcilie un peu plus avec le pardon suite à ces 60 minutes passées à en parler. J'aimerais remercier infiniment Anne-Laure Janson à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté à la régie, notre invité Éric-Emmanuel Schmitt et son livre « La vengeance du pardon » aux éditions Albin Michel vous est rendu disponible dans tout Renaud-Bray, là, ça c'est sûr, pub by the way. Je vous invite également à visiter notre site internet, le Vues et Voix, le canal M, pardon, hein, voyez-vous, pardon, canalm.vuesetvoix.com et notre page Facebook également chaque semaine où je vous pose des questions hebdomadaires. Vous pouvez aller également voir sur ma page personnelle Emmanuel Robitaille pour ces questions. Il faut toujours être franc avec soi-même. À quoi ça sert de continuer à en vouloir et à quoi ça sert de continuer à s'en vouloir? Il n'y a rien de grave dans la vie tant et aussi longtemps qu'on sait pourquoi on agit, qu'on sait pourquoi qu'on pense d'une telle façon. Est-ce qu'il y a un bénéfice secondaire à être son propre bourreau continuellement ou à ne pas vouloir tourner la page? C'est une question très, très importante à se poser. Une fois qu'on l'a compris, comme je vous dis, il n'y a rien de grave dans la vie. Il faut juste le savoir. Toujours en conscience. On parle également, est-ce que c'est possible de pardonner trop, trop vite, trop facilement? Se respecter dans le pardon, c'est également respecter son rythme. Être en colère, c'est une chose, mais agir la colère en est une autre. Donc, être en colère, en soi, tant qu'on est franc puis qu'on le sait, encore une fois. Si vous n'êtes pas prêt à pardonner tout de suite, mais que vous ouvrez la porte à la possibilité et au désir de le faire, vous êtes déjà en train de pardonner tout en vous respectant votre rythme. Et en vous assurant que la fois où vous allez l'offrir, ce pardon-là, ben, il va être authentique et non automatique. À la semaine prochaine.